Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série que je vous invite à suivre aujourd'hui et tous les jours de cette semaine. Pour intervenant au micro, je reçois un philosophe, homme politique, Jean-Frédéric Poisson, auteur d'un livre paru aux éditions MAM, « Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie ». Je vous salue sans plus tarder. Bonjour monsieur Jean-Frédéric Poisson.
Bonjour, bonjour.
Alors,
à tous.
Oui, philosophe, homme politique, d'un parti, via Parti chrétien-démocrate qui a changé récemment de nom.
Nous étions appelés Parti chrétien-démocrate il y a quelques années. Nous avons été accusés d'être des communautaristes et consacrés à la défense exclusive des chrétiens au mépris de tous les autres. Et compte tenu du fait que nous n'avions pas le temps nécessaire pour expliquer à chaque fois que, évidemment, le christianisme, c'est l'antithèse du communautarisme. Enfin, le message est universel. Le message du Seigneur est pour tous. La politique, qui sont ceux des messagers du Seigneur, et pour tous aussi. Et nous n'avions pas suffisamment de temps, jamais, pour expliquer tout ça, donc nous avons décidé de nous appeler Via, le chemin comme je suis la voie dans l'évangile de Saint Jean. Alors c'est un peu ésotérique, il faut le reconnaître, et la voie du peuple, parce que nous sommes là aussi, nous sommes des chrétiens sociaux, la pensée sociale chrétienne est inscrite formellement dans nos statuts. Dans le même article de nos statuts, il est écrit que nous défendons la dignité humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Donc c'est un message qui est la déclinaison de ce que le Seigneur nous invite à faire dans ce monde. Et compte tenu des attaques récurrentes, massives, très agressives contre les chrétiens dans le monde entier, je le sais depuis longtemps, je me suis beaucoup occupé des chrétiens d'Orient et des chrétiens persécutés dans le monde pendant mes mandats de parlementaire, mais maintenant en France de manière renforcée. Nous avons décidé de porter la bannière des chrétiens dans le monde politique pour dire aux gens, nous ne nous tairons pas. Vous pourrez nous faire tout ce que vous voulez, nous continuerons de parler parce que nous sommes les héritiers d'une parole que nous avons la mission de propager partout.
Pour vous, que représente cet engagement en politique ?
J'y suis entré par hasard, il y a plus de 30 ans. On peut entrer en politique par hasard. On peut entrer n'importe où par hasard. La question, c'est pas pour qu'on y entre, c'est pour qu'on y reste. Et j'y suis resté parce que c'est une école, j'y ai trouvé, tout le monde n'y trouve pas ça, j'y ai trouvé, une école remarquable d'humilité, de patience et de service. Et c'est probablement ce dont j'avais besoin aussi dans ma vie spirituelle et des axes de progrès qui pour moi étaient importants. Donc je suis resté là, ça fait 30 ans maintenant que je suis engagé, j'ai eu la chance d'exercer des mandats locaux significatifs, un mandat national, j'étais candidat à plusieurs élections, à la présidentielle en 2016, 2017, enfin la primaire. J'ai voyagé dans de nombreux pays, rencontré des gens formidables de partout.
Et on peut vous demander, en 30 ans d'activité, d'engagement, de service, où vous avez appris l'humilité,
Je continue d'essayer d'apprendre, parce que c'est jamais fini.
Quel est le bilan ?
Ah, une grande
30
joie.
Ans après.
Une grande joie. Le sentiment d'avoir été là où je devais être. Ce qui est une richesse incroyable. Le fait d'avoir consacré 30 ans de ma vie à des choses que j'ai aimé faire. Une passion pour l'engagement. Et puis, d'aussi loin que je regarde dans ma vie, je me dis que, au fond, dans tout ce que j'ai pu être amené à faire, en le choisissant pleinement ou en étant conduit, parce que c'est toujours un peu un mélange des deux, hein, j'ai été un très jeune président de Maison des Jeunes et de la Culture, où j'habitais en banlieue nord de Paris. J'avais 19 ans quand j'ai pris cette responsabilité. J'ai enseigné la philosophie et les lettres. J'ai été cadre et DRH dans l'industrie. J'ai dirigé un cabinet de conseil. J'ai présidé plusieurs associations. Je me suis engagé en politique. Le fil directeur, c'est la dignité de la personne humaine. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui motive aussi beaucoup des livres que j'ai publiés. Y compris sur le monde du travail, sur le droit social, sur la pénibilité, sur les risques psychosociaux. Ça fait partie des choses que j'ai faites aussi comme parlementaire. Et voilà, donc le fil conducteur de mon existence, c'est ça. Et c'est le fruit aussi de 30 ans d'engagement politique qui ont nourri et d'une certaine manière achevé, c'est pas fini, mais enfin en tout cas complété cet engagement initial qui lui ont donné corps, qui l'ont décliné en quelque sorte.
Alors vous avez écrit, et je vous reçois toute cette semaine, hein, et j'invite les auditeurs à devenir eux-mêmes lecteurs de cet ouvrage qui est paru aux éditions MAM, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Votre livre explore l'histoire et les fondements éthiques et religieux des soins palliatifs. Vous êtes donc un expert en bioéthique et en droit social. Vous rappelez l'importance des soins vous rappelez l'importance des soins palliatifs pour accompagner dignement les mourants et vous êtes en désaccord avec l'idée que la médecine puisse s'affranchir de la mort et mettez en avant la fraternité et la solidarité comme valeur essentielle. Votre livre, on peut le dire, Jean-Frédéric Poisson, plaide pour une meilleure reconnaissance et promotion des soins palliatifs comme une alternative humaine. Aujourd'hui, permettez-moi, homme politique que vous êtes, défenseur du début de la vie à la fin de vie, les auditeurs qui vous écoutent, hein, qui pourraient vouloir aller plus loin et vous lire, pourquoi cet ouvrage ?
D'abord parce que pour le philosophe que je suis, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la dignité et la responsabilité dans la loi française de bioéthique de 1994 autour de la procréation médicalement assistée, des greffes d'organes, de toutes ces questions qui sont posées par la manipulation de l'humain en réalité. Il y a un très grand mystère par rapport à ce que nous avons connu, enfin les personnes de ma génération qui se reconnaîtront, quand nous étions collégiens ou lycéens, c'est que le rapport à la mort était plus direct. Nous étions habitués à lire dans la littérature classique, dans la poésie, dans les tragédies qu'on apprenait en cours de français, d'être confronté à la mort tout le temps. Tout le temps. Alors une mort romancée, certes, mais réelle. C'est-à-dire que y avait une réalité, une consistance. Et je me souviens en particulier d'un épisode qui m'a bouleversé, je m'en souviens encore maintenant, pourtant j'étais en classe de seconde, vous voyez, donc ça commence à dater un peu. J'avais un professeur de français, M. Mornet, un grand monsieur avec un caban de marin, une barbe poivre et sel. Il est arrivé en classe un matin et il a lu La mort des pauvres de Baudelaire, un magnifique sonnet. C'est la mort qui console et là c'est qui fait vivre, c'est le but de la vie, c'est le seul espoir, etc. Vous trouverez ça dans Les fleurs du mal. Il a terminé la lecture de ce sonnet, c'est un sonnet, il y a 12 vers, hein, donc ça prend une minute et demie. Il y a 14 vers, pardon. Et il a dit, voilà, je suis venu vous lire ce poème ce matin pour vous dire bonjour, mais je ne pourrai pas assurer le cours parce que je dois aller aux obsèques de mon père. Et quand on a 15 ou 16 ans, qu'on reçoit ça en pleine figure, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Quelle est cette réalité qui est voilà. Et donc on était habitué à ça. Les générations d'aujourd'hui n'ont pas ce rapport. Je raconte dans mon livre que je me suis retrouvé un jour dans une cérémonie du 11 novembre avec un jeune cadet des pompiers de Rambouillet, qui avait 16-17 ans, qui pour la première fois de sa vie venait dans un cimetière. Donc ce rapport à la mort est devenu complètement virtuel en réalité. On ne veut pas la voir, on la cache. On cache les détenus dans les prisons, on cache les personnes âgées dans les EHPAD, souvent en tout cas. Les mourants dans les hôpitaux, au moins on les voit, mieux on se porte. On cache les handicapés, les toxicomanes, enfin tout ce qui ne va pas bien, on le met de côté, on ne veut pas le voir. La fragilité, on n'aime pas
oui,
ça.
La vulnérabilité, on n'en veut pas.
On n'aime pas ça du tout.
On veut des hommes et des femmes forts et
solides,
puissants.
Puissants, consommateurs, éclairés, riches, etc. Tout ce qui va bien. Bon. Et alors, il y a une interrogation sur le statut de la mort dans la société occidentale. C'est comme ça que je commence le livre, d'ailleurs. Et puis, deuxièmement, j'ai une très grande émotion à écouter à chaque fois les intervenants aux soins palliatifs, qui font un travail invraisemblable. On y reviendra certainement. Et c'est pour prendre leur défense, en fait, et essayer de dire un peu ce qu'ils font, que j'ai écrit ça.
Eh bien, ça tombe bien. Je vais vous proposer de vous retrouver demain, quelques minutes encore, et toute la semaine, Jean-Frédéric Poisson. Nous parlerons de ces rencontres que vous avez eues. Et il est important aussi d'aller sur le terrain. Et sur le terrain, on rencontre. Et la rencontre, c'est une écoute. Je vous propose de vous retrouver demain, ici même, dans ces studios, puisque vous êtes de passage à Lourdes, dans la cité Mariale, pour une conférence. On vous reçoit. Vous nous donnerez, je l'espère, quelques pistes de réflexion. réflexions et quelques clés pour bien vivre, mieux vivre et peut-être aller jusqu'au bout et bien vivre aussi cette fin de vie qui est le dernier voyage. À demain et merci.
À demain.